Oui, on est de retour. J'espère que vous allez bien. On est le 31 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Il est 21h55. Il est un peu tard, je suis désolé, mais j'ai passé une petite journée de Pâques avec ma famille. Et j'ai un petit peu chillé cet après-midi. Voilà, j'ai passé un peu de temps dans mon canapé à regarder YouTube. Je vais être honnête. Donc là, j'ai mal à la tête. Je sors d'une vidéo. Je regardais une vidéo sur le conflit israélo-palestinien faite par Ben Shapiro. Je sais pas si vous connaissez. Il parle tellement vite. Il m'a fait mal à la tête. J'étais bien avant, je venais de regarder la vidéo de Cédric Doumbé, qui au passage est une masterclass hein, sur de PR, donc de relations publiques, sur comment revenir d'une défaite, rien que dans le titre. Qu'est-ce que ce titre, il est magnifique, c'est quoi? C'est défait mais pas vaincu. C'est magnifique, beaucoup d'autodérision. Il arrive en fait à, c'est un expert de la gestion du sentiment à son égard. Je pense qu'il est extrêmement bien conseillé, mais la vidéo est super bien menée pour qu'à la fin, bon bah tu sois à la fois compréhensif et quel sentiment que Cédric aurait pu le défoncer dans le troisième round et t'as envie de voir la revanche contre Baki, c'est incroyable. Franchement, c'est très très fort. Ça m'a donné envie d'acheter des bouquins sur des bouquins que j'avais sur la liste de lecture depuis longtemps. Je parle vraiment dans tous les sens, hein, mais après premier, on parle de masterclass scaling personnel. Et je vous le dis parce que je trouvais ça important. Des bouquins sur les spin doctors. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'avais vu un documentaire il y a pas longtemps qui m'avait donné envie d'acheter un bouquin. C'était sur les gens qui avaient fait remonter Mitterrand dans les sondages. En fait, il avait deux conseillers qui étaient incroyables et qui construisaient le narratif autour d'un politicien. Et d'ailleurs, vous fait perdre toute confiance entre dans n'importe quel homme politique depuis voilà probablement ces 50 dernières années. Mais je trouvais ça intéressant en termes de comment est-ce que tu gères l'opinion publique, comment est-ce que tu réponds par exemple après une. En fait, parce que c'est ça qu'il fait finalement, Cédric Doumbé. Hein, il s'est pris une écharde dans le yep, une défaite assez humiliante. Enfin, une défaite. Disons, pas le dénouement qu'il aurait souhaité de la soirée après avoir beaucoup parlé, il arrive à faire passer ça comme une lettre à la poste. C'est une masterclass. Bref, voilà, donc je me suis beaucoup détendu parce que c'est la dernière journée du trimestre. Et bon, bah, aujourd'hui, j'ai fait le bilan sur mes objectifs dans le but de vous les partager. Et ça va être le thème de ce podcast. Ça s'appelle la masterclass scaling personnel. Entre parenthèses, nouveaux apprentissages sur comment fixer et atteindre un objectif. Si vous n'avez pas consommé le premier épisode qui s'appelait masterclass performance personnelle, donc ça, je crois que c'était il y a 6 mois. Et l'autre épisode pardon sur les objectifs du Q1 que j'avais annoncé, c'était bah vous faites cet épisode-là moins 13, donc ça doit être l'épisode 30, enfin 20, 26. Ouais, prépa, je fais beaucoup de maths. Voilà, donc si vous voulez aller voir la version du trimestre d'avant, je la fais à chaque fin de trimestre. C'est l'occasion voilà de faire un petit bilan sur comment est-ce qu'on a avancé, est-ce que j'ai en effet été un scaler ou pas, et c'est le moment aussi pour vous de faire un bilan sur vos objectifs et de définir les objectifs suivants. Donc la structure du podcast sera la suivante, et juste après promis, je vous fais l'introduction. Pour ceux qui ne savent pas où ils ont atterri, on va commencer par faire le bilan de mes objectifs du Q1. Puis, on va parler de tout ce que j'ai découvert sur comment fixer et atteindre des objectifs. Enfin, la promesse du titre, je crois que j'ai combien? J'ai 9 principes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 principes que je ne connaissais pas au trimestre précédent. Puis, je vais vous parler du Discord, qui m'a beaucoup aidé dans cette quête-là. Et enfin, on va faire les objectifs de Q2. Voilà. Et donc, tout ça en une petite heure, je pense. Ça devrait pas prendre une éternité. Mais avant tout, bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Je suis Théo Lyon. J'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kodak, mon groupe d'agences qui aide les entreprises à grossir en ligne, dont la plus connue d'entre elles est mon agence Ads, qui s'appelle aussi Kodak. En 4 ans demain, c'est l'anniversaire de Kodak d'ailleurs, le 1er avril. En 4 ans, parce que j'ai 3 ans et demi dans mon script. En 4 ans, l'entreprise a atteint 417 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés. L'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant fin 2024. Dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% de ce que vous faites. L'idée sous-jacente de ce podcast est que l'entrepreneuriat n'est qu'un prétexte pour se scaler soi-même. Et inversement, vous scalez vous-même à de grandes chances de faire de vous un excellent entrepreneur. Ce qui fait que vous allez voir dans ce podcast, je parle beaucoup de sujets un peu extra-professionnels, mais qui sont toujours accomplis dans un but professionnel, dans le but d'être plus performant en tant qu'entrepreneur. Donc j'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 39 de Road to 10 Million, le chapitre 39. On fêtera le 40e ensemble pour une occasion extrêmement spéciale la semaine prochaine puisque ce sera le 7 avril. Et le 7 avril, ceux qui suivent savent très bien ce qui se passe. Ceux qui préparent savent encore mieux ce qui se passe. C'est la date du marathon de Paris, que je prépare depuis désormais 18 semaines. 8 semaines de prépa. Non, plus que 18 semaines. J'ai quoi? J'ai... Non, 20 semaines. J'ai 8 semaines de prépa 10K et 12 semaines de prépa marathon. Donc tout ça se dénoue dimanche prochain et je suis très content d'en avoir enfin fini parce que j'en peux plus, j'en ai marre de courir. J'ai été trop intense, mais là je suis très content de cette petite semaine parce que vous savez, les deux dernières semaines avant une compète, c'est toujours, ça s'appelle le taper, donc l'affûtage en français, mais taper c'est vraiment plus stylé. Donc tu fais des séances un peu tranquilles, tu retrouves tes jambes, t'as l'impression de pouvoir voler et c'est le moment où faut pas s'enflammer, faut arriver bien frais à la compète. Donc mon objectif, je vous le rappelle, ce sera de le faire en 3h30, moins de 3h30. Et donner le meilleur de moi-même pour en être fier. Voilà. Mais la prépa est déjà terminée. Vous allez voir, d'ailleurs, c'était l'un de mes gros objectifs du Q1. Sur lequel j'ai appris pas mal de trucs parce que une prépa marathon, ça marque. C'est entre 4 et 5 séances par semaine. Et donc, ça se fait pas au hasard. Faut s'organiser un peu. Et il y a des moments où c'est pas facile, surtout quand tu fais ta prépa, qu'elle commence en hiver, en fait. Parce que j'ai commencé 20 semaines. 20 semaines, c'est décembre. 20 semaines, c'est même fin novembre. Fin novembre, c'est début décembre jusqu'à avril. Donc, ça fait un peu de temps. Les conditions sont... Enfin bref, il y a plein de frictions là-dessus et je vais en reparler. Donc, c'est la fin du trimestre, c'est le moment de faire un petit bilan. Les 13 semaines de ce trimestre sont écoulées. Et je voulais vous faire cet épisode parce que, au fur et à mesure que... Et depuis la création de ce podcast, qui me permet en même temps de créer beaucoup de accountability, dont on va voir que c'est un point très important pour atteindre un objectif, eh bien, je me rends compte que c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Déjà, de fixer un bon objectif et de réussir à le tenir derrière. Donc, c'est un objectif qui est ambitieux. Et de ne pas se perdre en chemin. En fait, tu peux te gourer à beaucoup d'endroits et je suis content de pouvoir l'expérimenter par la pratique en plus. Donc tout ce que je vais vous donner, c'est pas des leçons des bouquins, même si je pense qu'elles doivent déjà exister sur internet, mais de toute façon tout a déjà été inventé, je ne suis que le messager de gens bien plus intelligents que moi. Mais pour le coup, j'ai eu l'occasion de me faire une expérience personnelle sur toutes ces choses-là, c'est ce que j'ai envie de partager dans cet épisode. Donc je suis assez content de mon trimestre au global. J'ai l'impression que j'ai construit des systèmes assez solides qui ont fait que malgré les difficultés que je vous ai partagées d'ailleurs au fur et à mesure des semaines, je suis arrivé plus ou moins là où je voulais arriver. Et là-dessus, il y a quand même un paradoxe. C'est que pour ceux qui avaient suivi l'épisode du trimestre précédent où j'annonçais mes KR, donc d'ailleurs, ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est un OKR, c'est une méthode startup qui veut dire Objective Key Result. Un objectif, c'est la vision, la direction. Et les KR, ce sont des résultats quantifiables qui vont t'assurer que normalement tu atteignes le haut de objectif. Et donc, j'avais. Combien de KR? J'en avais 17. Un truc comme ça. 4 plus 4 plus 5. Ça fait 8, 14. Ouais, j'en avais 17, exactement. 17. Et j'en ai pas coché énormément. J'en vois que 5 cochés d'ailleurs là-dessus. Mais pourtant, j'estime que mon trimestre est un succès. Et vous allez voir que c'est une des leçons qui va venir après. Donc, j'avais 4 OKR pour le trimestre précédent. J'avais un OKR santé sport qui était devenir un athlète marathonien avec 4 KR à l'intérieur, je vais revenir dessus. J'avais un OKR sur les social et experiences qui était me mettre dans des situations inhabituelles. J'avais un OKR de scale personnel qui était devenir plus intelligent, tout simple. Et j'avais un OKR professionnel qui était de faire un trimestre à 1,65 million d'euros. Alors là, malheureusement, j'ai pas les chiffres de Kodak encore parce que mars n'est pas terminé. On n'a pas fait la compta, donc je ne pourrais pas vous répondre pour l'instant. Alors, première gorgée d'eau, j'ai déjà plus d'eau dans la gourde, putain, je vais devoir me lever pour aller en chercher, mais bon, vous êtes habitués à m'attendre un peu. Premier OKR, c'était OKR santé et sport, et il y en avait 4 dedans. La première chose, c'était courir 44 fois. Courir 44 fois, c'était dans le but de faire cette prépa marathon, qui a pas mal évolué, parce qu'au début, je ne devais faire que 4 séances par semaine, et j'ai augmenté l'intensité progressivement. Et je suis passé à 5 séances par semaine dès la semaine, je crois, 12 du programme, 10-12 du programme. Donc, j'ai fait la seconde moitié à 5 séances par semaine. Donc, ce qui fait que j'ai fait 58 runnings sur les 44 prévus. C'est un OKR qui est enculé. OKR numéro 2, faire 46 séances à la salle. J'ai compté, j'en ai fait 43. Je n'ai pas fait 46. Donc, ça veut dire c'était en moyenne 3 séances et demie par semaine. Donc, une fois, une semaine 3, une semaine 4 pour faire un jour sur deux. Alors, j'ai pas fait 46 séances à la salle, malheureusement. J'ai eu quelques petites semaines où j'ai fioté. J'ai dû en faire 2. Bah, visiblement, ouais, c'est ça. Mais pourtant, je suis quand même assez content de mon assiduité parce que tout cela, c'était en parallèle de la prépa marathon. Donc, ça fait 58 running, 43 salles sur un trimestre qui fait, si on fait les calculs, 61, 101. Bah, ça fait plus qu'une fois par semaine en sport. Bah, c'est assez cool. Mais c'est pas 46. Voilà. Mais bon, vous voyez, j'ai pas forcément, je ferai les leçons plus tard, mais. Je suis pas forcément hyper déçu de pas avoir atteint ce truc-là. Je pense que je suis content d'en être proche. Voilà, KR numéro 3, c'était faire 36 000 calories de déficit, qui valait à 400 par jour. Alors, j'ai fait 20 600. Ça, c'est en comptant les running. Hein, donc, j'ai vraiment bouffé comme un gros porc. La course, ça donne faim. Encore une fois, je suis pas très déçu. Ça fait un peu plus de 50%, 55% de l'objectif. On peut pas tout avoir. Et c'est d'ailleurs la principale leçon, en vrai, de ce Q1 qui fait que je vais pas du tout faire pareil mes objectifs de Q2. Vous allez le voir à la fin. Et quart numéro 4, c'était Lights Off 52 fois à 22h30. 4 jours dans la semaine. Je l'ai fait 23 fois sur les 52 prévus. Alors, ça a été plus dur que prévu. J'étais pas très bon. Il faut pas oublier quand même d'où je partais sur le Q4. Ça a toujours été mon défaut, moi, le sommeil. Et d'ailleurs, j'ai encore un sujet à traiter sur le trimestre qui arrive. C'est l'histoire au sein du sommeil profond, où je vois sur les analytics de mon Apple Watch qu'il est toujours très mauvais. Je comprends pas trop pourquoi. Donc, il va falloir que je le traite plus tard, mais pas maintenant. Ce que ça voulait dire, c'est que j'ai remarqué que ce qui me permettait de faire une bonne nuit, c'était pas de me mettre un objectif dormir 8 heures. C'était l'heure à laquelle je me foutais au pieu. Donc ça veut dire à quel moment est-ce que les lumières sont éteintes. Ça ne veut pas dire que je dois être en train de dormir, ça veut dire que je suis dans mon lit à 22h30. Et j'ai mis, le but c'était de le faire 4 jours dans la semaine pour avoir une semaine quasi parfaite et se laisser du temps pour le vendredi, enfin vendredi, samedi, dimanche où j'ai le droit d'être un peu plus large. Enfin, c'est plutôt vendredi, samedi et un jour dans la semaine. Alors je vais remettre ce KR pour le trimestre prochain parce que vraiment, avoir fait gaffe à mon sommeil, ça m'a beaucoup aidé en termes de clarté d'esprit, oula. Et j'aime bien la façon de formuler ce KR. Je recommande à tout le monde de le faire comme ça. C'est vraiment, en fait, se lever à la bonne heure et dormir bien, c'est juste, franchement, la seule chose, c'est à quel moment tu te fous au pieu, quoi. Bon, pour moi, en tout cas, parce qu'après, je mets un petit podcast, je dors et terminé. Il faut avoir son petit rituel. Donc, au KR Santé Sport, même s'il n'y a qu'un sur les quatre qui est coché, je suis quand même très content. J'ai l'impression d'être devenu un athlète marathonien. C'était le titre de l'OKR. Il manque plus qu'à courir le marathon maintenant. Mais de toute façon, je ne pense que ça changera rien. Il faut bien différencier l'effort du résultat. J'ai fait la prépa, j'ai tenu mon challenge avec moi-même, j'ai couru 58 fois. Peu importe ce qui se passe, que ça termine, que ça termine pas, même si j'avoue, j'ai un peu le seum si je le termine pas, que je fasse le temps ou pas, la prépa est faite. Le KR numéro 2, c'était les expériences et le social. Me mettre dans des situations inhabituelles. Alors, il y a quelques KR qui sont privés. Je sais plus ce que je vous avais dit là-dessus, donc je crois que je vais pas pouvoir trop parler de ces trucs-là, parce qu'il y en a, c'est vie privée, c'est famille, tout le bordel, etc. Donc, je pas forcément grand-chose à faire dans ce podcast. Mais il y avait un care numéro 3 qui était social and experiences, c'était avoir progressé en articulation. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Il était vraiment hors sujet, ce truc-là. En fait, plus j'avais aucun plan, j'avais aucun temps disponible pour progresser là-dessus. Je l'avais un peu mis pour remplir l'espace. On va voir si c'est une des erreurs à laquelle je reviendrai après. Donc, non, ça n'est pas fait. Ça, c'était le care numéro 3. Les deux premiers, je vous en parle pas. Et le 4 non plus, il est privé. Donc, un seul care coché dans ce second care. Troisième care, c'était le scale personnel, devenir plus intelligent. Le premier, c'était publier 13 épisodes du podcast. Eh bien, écoutez, si vous êtes en train d'écouter cet épisode 39, c'est que j'ai rempli ma promesse. J'ai sorti 13 épisodes, un par semaine, tout au long de ce trimestre, et j'en suis hyper content. Vous inquiétez pas, j'ai pas prévu de m'arrêter. C'est bien rentré dans mes habitudes. Je prends de plus en plus de plaisir à le faire, ce qui est rare. Ça va en grossissant, mais j'ai l'impression que vraiment la partie improvisation commence. En fait, c'est comme un muscle. Ça devient vraiment de mieux en mieux. Et surtout au début, en fait, il y a un peu comme à la salle, il y a les newbie gains. C'est-à-dire au début, t'es très très peu à l'aise. Et sur les premiers épisodes, la croissance est énorme. Je pense qu'après, ça stagnera un peu plus tard. J'atteindrai un plafond. Mais j'apprends énormément de choses et j'arrive à développer des idées parfois avec très très peu de notes. Je suis content. Ça m'aide je vous ai déjà parlé de façon tous les bénéfices que je tire de ce podcast-là et je le fais aussi beaucoup pour moi et pas juste pour les écoutes que vous en faites. Care numéro 2, trouver un product market fit sur le serveur Discord. C'est pas très précis, pas très bien défini ce KR là, mais je trouve que je vous en parlerai de façon après ce qui a été et ce qu'on va améliorer, mais je suis très content quand même de ce qui s'est passé sur Discord. C'est plutôt si je devais mettre une note de 0 à 10, je mettrais un 8 sur 10 malgré toutes les améliorations qu'il faut qu'on fasse. J'ai l'impression qu'il y a une partie du serveur, enfin c'est pas j'ai l'impression, il y a une partie du serveur qui en tire un bénéfice énorme. C'est toujours l'objectif de n'importe quel produit, c'est d'avoir un très petit nombre de personnes qui sont très contentes de votre service et ensuite d'en trouver le plus possible des comme ça. Donc je vous ferai un petit peu le teasing pour savoir si vous pouvez être potentiellement dans ce genre de personne que ça peut aider. Donc je l'ai pas, mais malgré tout, je ne l'ai pas coché parce qu'il n'était pas précis. Et c'est surtout pour me punir de l'avoir mal défini. Care numéro 3, traquer quotidiennement mon compte holding perso. Donc regardez ma thune. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Enfin, vous savez, ça c'est le drame de ma vie. C'est que j'ai beaucoup de mal à... Comment formuler ça? C'est pas que j'allais dire j'en ai rien à foutre de l'argent, mais c'est totalement faux. C'est absolument faux. Je suis très content de gagner plus d'argent chaque mois ou bref chaque année. Je suis très content, mais j'arrive vraiment pas à en faire une motivation pour me lever le matin. C'est dur, hein, parce qu'à la fois j'ai pas envie de ne pas en avoir. Et souvent, en fait, ce qui est pas mal, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus ça mesure souvent l'utilité que tu as pour les gens. Et alors là, mon Riverside me dit trying to reconnect. C'est bon. Ça enregistre. Vous m'avez peut-être perdu une petite seconde. Donc voilà, bref. Donc je m'étais mis un objectif qui était chaque matin regarder combien il y avait d'argent sur mon compte Holding, parce que vous savez, c'est aussi quelque chose. Je rigolais pas dans le vlog Chamonix là quand je vous disais que je sais pas combien j'ai d'argent sur mon compte. Je ne sais pas combien j'ai d'argent sur le compte Holding. Je sais juste que je me fais un virement personnel d'à peu près ce dont j'ai besoin pour vivre. Et je vis largement avec ça. Voilà. Donc j'ai heureusement j'ai une assistante, hein, qui gère. Ça marche pas, hein, si vous êtes tout seul ce truc-là. J'ai une assistante qui regarde mes comptes et qui me dit quand est-ce qu'il faut payer la TVA, etc. Je sais pas pourquoi je pense à la TVA tout de suite, mais ça coûte beaucoup d'argent et c'est la première claque que prend n'importe quel entrepreneur. C'est que ça, même si tu le savais dès le début, quand tu dois la décaisser, ça pique le cul. Donc je l'ai pas très bien fait, ce truc-là, et il n'y a pas eu de drame, mon argent est bien géré, donc, donc ça va. Voilà. Mais c'est pas vraiment parce que j'ai bien géré la thune, c'est surtout parce que j'ai pas fait grossir mon style de vie. J'ai pas acheté de Ferrari. Care numéro 4, faire 80% de journée à 15 minutes max, d'Instagram Reels par jour. Alors celui-là, c'était vraiment pour illustrer le progresser par soustraction, dont je vous ai beaucoup parlé. C'est-à-dire que parfois, une façon d'être meilleur, c'est d'arrêter de faire des trucs de merde et pas d'essayer de faire des nouvelles choses. Bien là, moi, l'assassin de ma productivité et de ma clarté d'esprit, c'était Instagram, Reels. Et alors, non seulement j'ai délivré, j'ai fait plus que 80% des journées, 15 minutes max, mais en plus, je l'ai intensifié pendant le trimestre. Et je vous parlerai de quand est-ce qu'il faut réorienter ses objectifs, quand ils sont soit trop intenses, soit pas assez intenses, soit plus pertinents. Et bien là, je me suis autorisé à cocher à partir de la moitié du trimestre que les jours où j'ai passé 0 minute d'Instagram Reels. Et bien là, je suis très content parce que je suis désintoxiqué de ce truc. Et évidemment, corrélation n'est pas causation. Je sais pas si... Non. Bon, ça, c'est en anglais, ça. La corrélation n'est pas causalité. C'est pas parce que... Mais j'allais vous dire que j'ai l'esprit beaucoup plus clair ce trimestre-là que le trimestre d'avant, et j'ai pu le constater. Je sais pas si c'est lié à ça, ou alors à tout le reste, le sport et tout le bordel, mais en tout cas, j'ai pas prévu d'essayer de m'assurer du contraire en recommençant à le consommer. Donc je suis très content et je vous recommande de voir ça au sens large, de qu'est-ce qui capture votre attention immédiate et la gratification immédiate. Parce que souvent, voilà, ça me fait. Je me rappelle très bien la sensation que j'avais après avoir bouffé 45 minutes d'Instagram ou TikTok. C'est la barre au crâne, la barre au front de. J'ai envie d'aller chercher le plus de gratification immédiate possible. Et quand tu désentraînes ce muscle-là, tu revis sans avoir changé forcément grand-chose. Care numéro 5, c'était lire 15 minutes par jour. Alors, ce care, je suis pas très content de la façon dont je l'ai écrit. Parce que j'aurais bien aimé le mettre plutôt comme soit les nuits de sommeil, là, faire 80% de mes nuits, enfin 4 nuits par semaine en étant au lit à 22h30, ou alors comme celui d'avant, faire 80% des journées. Déjà parce que je lisais pas, et je me suis directement dit je vais lire 15 minutes par jour, trop ambitieux. Et ensuite, c'était pas très focus ce truc-là, j'avais pas forcément d'échéance qui nécessitait d'apprendre à lire, même si j'ai pas mal lu en fait, je crois que j'ai fait la moitié quand même des jours, j'ai dû lire 45 jours, un truc comme ça, j'ai plus la métrique exactement, et je sais que je l'ai pas atteint. Donc voilà, on peut pas tout faire en même temps. J'ai une nouvelle méthode d'ailleurs que je vais tester ce trimestre-là pour essayer de prendre acte de ce truc-là, qu'on peut pas être bon dans tout à la fois. Donc OKR, Personal Scale, 2 KR sur 5 ont été cochés. OKR Pro, fait un trimestre à 1,65 million d'euros. Bon, j'ai pas la métrique globale, mais dans les 3 KR, j'avais quoi ? J'avais avoir lancé une période d'essai avec 6 fondateurs d'agences. Vous savez, mon travail, c'est d'élargir l'écosystème d'agences Kudak. Et bien, ça a été fait. Et on a plusieurs personnes très prometteuses avec lesquelles signer des deals, ça devrait arriver au Q2, ce sera ma target. Care numéro 2, avoir organisé le premier sommet du growth. Alors c'est un petit peu en retard, et finalement c'est pas devenu le sommet du growth, c'est devenu le Kudak Tour. Donc, le Kudak Tour, c'est en gros une petite caravane Kudak qui va venir se déplacer dans 6 villes de France fin avril pour faire une petite conférence e-commerce, un petit verre avec tout le monde. Donc on va passer dans 6 villes que je vais essayer de vous donner comme ça. Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Marseille, et j'en ai oublié une. J'ai tout dit ? Non, j'en ai totalement oublié une. Il y en a six au total. Bon, c'est tout ça est trouvable sur LinkedIn. Vous cherchez. Putain ! Et voilà, je vais pas réussir à avancer, ça c'est mon problème, putain. Je vais pas réussir à avancer tant que j'aurais pas trouvé la dernière ville. Bordeaux. Voilà. C'est bon, on peut avancer. Care numéro 3. Avoir une BU, une business unit formation active, c'est pas fait du tout. Il y a un changement de responsable en interne. On voulait lancer la formation Facebook Ads. ça n'a pas été possible. Et on l'a dépriorisé avec plaisir. Parce qu'on avait d'autres sujets plus importants sur lesquels travailler. Voilà, donc au global, je vous dis, ça fait pas énormément de KR coché, ça en fait 5. Mais malgré tout, j'estime que c'est un super trimestre. Je suis super content parce que, en fait, je me suis rendu compte, et c'est là où ça m'a mis sur la piste de quelques erreurs que j'avais faites, que la façon dont j'ai jugé, enfin, le sentiment non calculé d'ailleurs à la fin du trimestre d'accomplissement ou pas, était corrélé qu'à une très 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 petite partie de mes KR. Et vous vous en doutez, bah, c'était ceux sur le marathon. Et donc c'était un KR sur les 15 là, les 17, je ne sais même plus combien j'en ai foutu, c'était courir. Parce que c'est un KR, mais c'est 44 running. Donc c'est un truc énorme. Et donc, ce qui m'a mis sur la piste que il fallait que je réoriente un petit peu la façon de faire mes OKR. Et donc, j'ai 9 choses qui sont selon moi les 9 trucs auxquels il faut absolument penser quand vous voulez fixer et atteindre des objectifs et qui sont des fruits de mes apprentissages du trimestre. Et je prends une petite gorgée et je vous en parle. Alors, le premier point est le suivant. Il va faire référence directe à l'épisode sur le Blitzkrieg, que vous avez peut-être écouté, qui est la notion qui a marqué la fin de mon trimestre. Je l'ai diffusé partout, j'en ai fait des points en interne chez Kudak. J'en ai fait une vidéo YouTube qui va sortir bientôt, qui dure 40 minutes, qui est encore plus détaillée que ce que j'ai pu faire brièvement dans le podcast. Et donc on va parler de focus et de Schwerpunkt. Donc le Schwerpunkt, si vous n'avez pas suivi, c'est une partie, un des 4 points de la théorie du Blitzkrieg allemande, qui est le Schwerpunkt, c'est le point faible de l'adversaire sur lequel vous allez orienter votre stratégie. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les Ardennes, où ils ont fait passer. Donc, les Allemands ont réussi à faire passer les tanks dans les Ardennes, ce qui a coupé l'armée française en 2, et qui leur a permis en 6 semaines d'atteindre Paris. Donc, ce Schwerpunkt est une notion qui a beaucoup, beaucoup marqué toute la stratégie militaire qui a suivi, donc des autres armées. C'est un truc qui a été utilisé, par exemple, pendant la guerre du Golfe, mais aussi dans plein d'autres batailles, et qui a aussi inspiré toute la théorie sur le blitzscaling, donc des startups américaines, toute la théorie qui prône de privilégier la vitesse sur l'efficacité. Et donc le Schwerpunkt, en gros, c'est le facteur sur lequel tu dois te concentrer, et tu dois laisser de côté tous les autres. Donc, en gros, le problème de mes objectifs là, que vous venez d'entendre, c'est qu'il n'y avait pas de Schwerpunkt. Il y avait vraiment pas, je savais pas quelle était ma grosse bataille. Alors, je m'en doutais, mais c'était pas clair pour moi. Je veux dire, ça n'avait pas une importance assez grande par rapport aux autres. Donc, en fait, il y avait que l'OKR 1 qui m'aurait donné un sentiment d'accomplissement à la fin du trimestre et j'ai pas su l'identifier au début du trimestre. Donc, ma première erreur, ça a été de pas être assez focus. Il y a pas beaucoup de KR cochés, mais je suis très content de mon trimestre, ce qui est quand même un gros paradoxe. Et voilà. Et en fait, ce qui me rend content, finalement, c'est très simple. C'est la prépa marathon et ça a aussi été autre chose qui a pas vraiment été beaucoup mesuré dans les OKR, à part par le OKR podcast, et c'est le succès de mon contenu sur YouTube et en podcast, où franchement c'est l'un des meilleurs trimestres qu'on ait fait. J'ai l'impression qu'on a trouvé le format qui vous plaît, et ça me fait trop plaisir, à la fois sur le podcast, et d'ailleurs tout est parti du podcast, hein. Maintenant c'est la pierre angulaire vraiment de tout ce qu'on fait sur les autres réseaux, c'est on prend ce qui vous plaît ici, et donc toutes les idées auxquelles je pense le dimanche, on prend les meilleures, on en fait des vidéos YouTube un peu plus poussées, sur lesquelles je vais faire le travail de documentation. Et j'expérimente ici, vous êtes le laboratoire de tout mon contenu, donc vous êtes vraiment les plus importants. Voilà, donc en gros, ce sont les deux choses sur lesquelles j'ai jugé le succès de mon trimestre, qui fait que je trouve qu'il s'est très bien passé, et que je suis pas très... Voilà, j'ai pas le seum de pas avoir progressé en articulation, même si j'aimerais bien être meilleur en articulation, mais juste, c'était pas la priorité. Donc, la première leçon, c'est qu'il y avait trop de KR. J'ai fait du remplissage d'espace, et ce KR sur l'articulation en est un exemple flagrant. Voilà. La question, c'est pas est-ce que c'est utile, la question, c'est est-ce que c'est prioritaire. Et c'est comme ça que vous devriez déterminer quel est votre focus, quel est votre Schwerpunkt. D'ailleurs, une petite information importante, c'est en fait, je me suis rendu compte, en rouvrant les KR, que je ne les avais jamais rouverts depuis le début du trimestre précédent. Ce qui veut surtout dire que j'avais déjà trop à faire avec ceux dont je me souvenais. Et en fait, il y a quand même un truc, c'est que c'est un peu bizarre de pas se souvenir de ses objectifs. Il y a un paradoxe dans la notion même. Comment tu peux ne pas te souvenir d'un de tes objectifs? En fait, si tu t'en souviens pas, c'est que c'est pas vraiment ton objectif. Et donc, ça m'a fait me rappeler que je pense que tu dois pouvoir citer tes objectifs en 2 secondes, sinon c'est qu'il y en a trop. Et donc, en fait, c'est pas vraiment tes objectifs, c'est des objectifs subsidiaires. Donc, tu dois en fait jamais rouvrir en disant « Ah, en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. » Tes objectifs, c'est des trucs que tu ne peux pas te retirer de la tête. Donc, moi, c'était le contenu et le marathon. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est comme ça que ça m'a, ça m'a donné de la clarté là-dedans. Donc essayez pas de faire du remplissage d'espace et vous, en fait vous allez voir, je l'ai fait dans les OKR pour Q2, mais il faut absolument limiter. En fait, vous ne pouvez pas mettre plus de KR objectif que vous n'avez de bande passante mentale. Et putain, il m'a encore perdu la connexion, ce salaud-là. Trying to reconnect. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, normalement, Riverside enregistre en local, donc on ne devrait pas avoir de problème, j'espère. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous imaginer à la fin du trimestre prochain et vous dire qu'est-ce que je serais content d'avoir accompli, et pas vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Hop là, bon, en fait, Riverside ne le fait pas, il m'a vraiment kick out. J'étais tranquillement en train de vous dire, non, c'est bon, ça va tenir. Non, il m'a sorti, là. Problème de connexion Internet. Mais j'ai regardé, je n'ai pas perdu l'enregistrement d'avant, je sais où je me suis arrêté. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir un focus à la fois. Tu démontes le premier truc et ensuite, tu passes à autre chose. Et en fait, il ne faut pas essayer de se dire, il faut que tous mes KR remplissent le trimestre. C'est là où vous faites des erreurs. Donc, n'oubliez pas de soustrayer, retirer des trucs. Une grosse partie de la priorisation, ce n'est pas juste de choisir ce qu'on fait, choisir ce qu'on ne fait pas, surtout. Et c'est très, 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 très important. Et à chaque fois que vous refusez de renoncer, bah vous refusez d'atteindre l'objectif. Parce que vous allez mettre un peu d'effort par-ci, un peu d'effort par-là, et finalement, vous n'allez rien atteindre, même pas le truc qui vous semblait le plus prioritaire. Donc, c'est un effort. Mettez-en moins que nécessaire, et ensuite, au pire, vous en rajouterez. Donc, voilà. C'est aussi pour ça, et ça va m'amener sur le point numéro 2, qui est la réorientation de mi-trimestre. Mais donc, voilà. Soyez très, très honnête sur ce que vous voulez faire. Et avec la théorie, d'ailleurs, c'est plutôt dans le bouquin Blitzscaling que dans la théorie militaire sur le Blitzkrieg. Il y a un principe qui est super, super, super important, que j'adore, qui est « let fires burn ». J'en avais déjà parlé. Laissez les feux brûler. C'est exactement ça. C'est quel feu êtes-vous prêt à laisser brûler? Donc, il y a une façon très simple de voir le truc. C'est les feux qu'il faut laisser brûler. C'est ceux qui ne vous mettent pas en danger de ne plus pouvoir travailler sur le Schwerpunkt. Donc, quand vous faites la guerre à la France et que vous avez une révolution à Berlin, ben là, vous devez vous arrêter. Vous devez éteindre le feu qui est la révolution. Mais, par exemple, quand vous avez un petit problème de... j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais je pense que vous avez compris l'idée. Des problèmes mineurs n'ont pas besoin d'arrêter la conquête. Donc c'est pour ça que j'ai constructuré mes objectifs selon cette logique-là. J'ai un Schwerpunkt, j'ai un Blitzkrieg, et j'ai quelques feux que je ne veux pas laisser brûler, ceux que j'aurais le seum qu'ils aient arrêté. Voilà. On peut aussi le voir dans l'autre sens, hein, des flammes dont je ne veux pas qu'elles s'éteignent. Voilà. C'était le premier point, focus et Schwerpunkt, on passe à la réorientation dont je vous parlais. Donc, je me suis rendu compte très vite sur un de mes KR, qui était la lecture, que ça allait être très chaud. Malgré tout, comme je ne voulais pas toucher, parce que je m'étais engagé, j'ai continué à le traquer tous les jours, et tous les jours, en fait, j'avais un peu cet échec-là de loguer, bon, j'ai toujours pas lu. Et parfois, je me retapais une déterre, je fais « Allez, ce week-end, je lis », et je relâchais. Et en fait, il y a une raison, si j'arrivais pas à le faire, c'est bon, c'était trop. Putain, il m'a encore perdu la connexion, non, c'est bon. Je n'ai pas eu le temps de l'insulter. Bon, je ferai gaffe. Et donc voilà, tout ça pour dire que pendant un trimestre, il y a énormément de nouvelles informations qui vont arriver. Et donc, ce qui vont faire qu'il y a pas mal de KR qui vont devenir désuets. Soit que vous n'allez plus vouloir atteindre, soit sur lesquels vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas avancer. Et ça, faut pas l'ignorer non plus. Et alors, faut pas non plus mentir en disant je renonce à tout et je ne travaille sur rien. Mais il faut quand même se dire que c'est pas, faut pas être figé. En fait, il faut pas confondre engagement et immobilisme et non agilité. Je sais pas ce que c'est l'inverse de l'agilité. Il faut être capable de réorienter. Et donc ça, c'est aussi un point de la stratégie militaire dont je vous ai parlé, c'est Reorient, avec une super newsletter qui s'appelle The Whirl of Reorientation. L'un des mots les plus durs à dire, je pense, pour un français, Whirl, c'est W-H-I-R-L. Donc ne vous acharnez pas, essayez de réorienter. Quand ça coince à un moment, vous ne continuez pas à envoyer des unités, soit vous abandonnez la bataille, soit vous envoyez les unités sur une autre bataille. Et donc c'est ça tout le problème avec l'échelle du trimestre, qui pour le coup reste la moins pire. C'est vraiment la meilleure, je trouve, l'échelle du trimestre, donc les 13 semaines que ça compose, surtout de le voir comme ça. Mais par contre, à condition d'être capable de faire de la réorientation. Donc, c'est ce que je vais faire à titre perso, et j'en ai déjà parlé aux membres du Discord, mais on va le faire à la moitié du trimestre. On va se mettre un moment où on a le droit de changer une partie mineure des KR au milieu du trimestre, en mode, OK, qu'est-ce que je pense des objectifs? Est-ce que je suis toujours aligné? Et lesquels je rajoute ou lesquels j'amplifie aussi. Et vous pouvez en abandonner, mais vous pouvez aussi en intensifier d'autres. C'est ce que j'ai fait avec Instagram Reels. Donc je me suis rendu compte que ça marchait bien, ce que j'ai fait avec le running aussi. Donc je me suis rendu compte que je voulais être très prioritaire, enfin prioriser à balle ces trucs-là. Et donc j'ai remis de l'intensité, quitte à ne pas en faire d'autres. Ne soyez pas figés, restez pas sur des quêtes qui sont soit trop faciles, soit trop difficiles. Il faut réadapter, soyez agile. Et aussi ce qui est important, c'est que quand vous le faites au milieu du trimestre, ça vous permet de de mettre un petit peu de nouveauté, de remettre un peu d'excitation dans le ventre mou, qui sont les semaines du midi, franchement, les semaines entre 4 et 8. Ouais, entre semaine 5 et semaine 9, je pense que c'est exactement ça. C'est les pires semaines du trimestre. C'est celle où tu es loin du début et loin de l'arrivée. Et c'est là où je pense que vraiment un trimestre, ça se joue sur ces semaines-là, ces 4 semaines-là. Si tu arrives à pas lâcher ces semaines-là, le but, c'est pas d'être excellent. Tu limites la casse, tu lâches rien. Et tu fais un finish de bâtard, tu es toujours vivant. Et là, c'est ça qui, en fait, moi, c'est ça qui a été déterminant. C'est ce moment-là où, d'ailleurs, j'ai tout documenté dans la vidéo qui sortira sur le marathon. Je pense que j'en ai aussi parlé dans ce podcast, naturellement. Je me souviens plus, mais normalement, j'ai dû vous en toucher quelques mots. Sur l'ennui, ouais, si je me souviens, j'avais parlé de ça. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de terminer ce trimestre en beauté. Je suis très content. Et donc, le fait de faire une petite réorientation mi-trimestre, ça remet un peu de peps. Ça fait comme s'il y avait un nouveau départ au milieu du trimestre. Et en fait, on peut jamais vraiment s'en extraire de l'ennui du milieu. Que vous choisissez le trimestre, le mois ou la semaine, il y a toujours un milieu à quelque chose. Donc c'est toujours ce milieu où vous serez à la fois très loin du début et très loin du finish. Et il n'y a pas d'autre choix que voilà, c'est le moment où il faut mettre en place la force de volonté, elle doit s'exprimer à ce moment-là. Pas au début, pas à la fin, c'est là où c'est facile. Il y a du monde au début, il y a du monde à l'arrivée, mais il n'y a personne pendant la traversée. C'est toujours comme ça. Donc c'est le moment où il faut s'accrocher. Numéro 3, de l'évitement de la souffrance à l'aspiration. Bon alors, je vous avais beaucoup documenté cette période d'ennui que j'ai vécu sur l'objectif où je savais plus trop pourquoi je courais. Je me demandais, mais quel était mon pourquoi? Je savais plus exactement pourquoi, en fait, même je m'étais inscrit à un marathon. Et je m'étais un peu démotivé au milieu du trimestre sur le running, sur pas mal de trucs. Parce que forcément, ça prend rarement qu'un seul pan de votre vie, une petite phase de moins bien. Et donc, j'ai pas compris tout de suite, mais en fait, ce que je vois maintenant clairement aujourd'hui, c'est que ça traduisait le fait que ma motivation, elle avait changé. Parce qu'aujourd'hui, je suis super motivé pour courir le marathon. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Et en fait, c'est parce que entre le début de la préparation et la fin de la préparation, c'était plus mon pourquoi, il avait évolué. Et vous savez que le pourquoi, c'est très important, c'est parce que quand vous allez effriter le mental, que ça va être dur, c'est là où en fait, vous allez vous poser la question simplement de pourquoi est-ce que vous faites ça. Et plus cette réponse, elle est solide, plus c'est ancré dans votre être, moins vous allez avoir de chances d'abandonner. C'est pour ça que les gens qui font les trucs pour leurs enfants ou par exemple qui décident d'arrêter de fumer après le décès d'un proche, c'est des motivations très solides. Parce qu'ils savent pourquoi ils font les choses. Et les motivations un peu fragiles, elles partent très très vite. Donc, mon pourquoi au début, c'était simplement d'arrêter d'être une merde et d'apprendre à faire des trucs durs. Et en fait, pendant le trimestre, j'ai rapidement eu des preuves qui ont fait monter mon estime de moi que j'étais plus une merde et je savais faire des trucs durs. Donc, ça me motivait un peu moins. Et donc, j'ai eu 2-3 semaines où je savais plus trop pourquoi je courais. Jusqu'à ce que je meure. À la fin, je sais plus comment. Je commence à être motivé par quelque chose d'autre. C'était... le fait de passer la ligne d'arrivée. Et heureusement, en fait, entre les deux, j'avais ce groupe de accountability qui est à la fois avec mes potes et sur le Discord, qui fait que j'ai pas lâché et qui m'a fait énormément de bien le temps de retrouver cette nouvelle motivation. Et Riverside me fait encore des dingueries, mais c'est passé. Et donc, ça m'a laissé le temps de comprendre, en fait, ce qui était en train de se passer. Donc, de trouver un but qui est aspirationnel. Donc, en fait, si on caricature, je suis passé de l'évitement de la souffrance, donc arrêter d'être une merde, l'évitement de la souffrance via la souffrance, vous avez compris, petit jeu de mots. Via la tolérance à la souffrance, derrière le but qui est passer le marathon avec un bon temps, pouvoir faire une bonne vidéo, être fier de moi, parce que ça c'est un truc, c'est pour l'éternité quand t'as couru un marathon, et c'est ça qui me motive aujourd'hui. Et j'ai envie de pouvoir m'en rappeler parce que je sais qu'à un moment ça va éprouver mon mental pendant la course, ça va être très très dur, et j'ai envie de me rappeler de ce truc là voilà. Et en fait, je m'imagine très bien, je visualise très bien le moment où je passe le marathon, je regarde ma montre, et là je vois un temps qui me satisfait. J'imagine ce moment-là. Je ne sais pas s'il va se produire. Mais d'ailleurs aussi, ça permet de ne pas se mentir. Vous savez, quand vous voulez viser un temps, vous savez, et que vous vous dites... En fait, quand on vous demande votre temps, vous êtes souvent soit un petit peu trop modeste ou un petit peu trop flexeur. Et quand vous visualisez en train de passer la ligne, de regarder votre montre et d'être content, et je vous dis, vous êtes content du temps que vous voyez, il y a marqué quoi sur la montre? Et là, vous ne pouvez plus vous mentir. Moi, je sais très bien ce qui est marqué sur la montre et j'en parlerai plus tard. Donc... faites attention, voilà, et questionnez toujours votre pourquoi. C'est pas grave, il peut changer, en fait. C'est surtout ça, il peut changer. On n'en parle pas assez, je trouve c'est mobile, un pourquoi. Ça change. Et c'est toujours dans deux catégories. Soit t'évites la souffrance, soit tu te rapproches du succès. Et voilà, il faut faire, c'est une évolution naturelle. Voilà. Et donc, et gardez en tête que aussi, même sans, même si vous arrivez à faire passer le why, vous avez toujours un why qui est solide, l'ennui arrive toujours. Et moi, un truc qui m'aide beaucoup à tenir dans ces moments-là, donc dans les semaines un peu du ventre mou du trimestre, c'est de me dire que c'est dur pour tout le monde et que dans cette situation-là, chaque jour, il y en a la moitié qui partent. Il y en a la moitié qui abandonnent. Je sais pas, en plus, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas de concurrents, j'ai personne. Mais je me dis, c'est là où les gens, ils abandonnent. Et je suis vraiment en train d'avoir l'impression de creuser l'écart. Et ça me motive de ouf. Donc, c'était le point numéro 3 de l'évitement de la souffrance à l'aspiration. Point numéro 4. On va parler un peu d'ennui. Comment dépasser l'ennui en créant du mouvement. Donc, je vous avais aussi documenté dans ces épisodes la phase de brouillard mental et un petit peu de perte de sens. C'était moins clair. Et en fait, ça venait de ce truc-là du marathon qui était l'ennui. L'ennui, le fait de pas trop savoir ce que je faisais et qui, du coup, m'avait ruiné un petit peu l'aspect jeu. Je m'amusais moins, simplement. Et vous savez, je sais pas si c'est pareil pour vous. Je me demande d'ailleurs vraiment si, faudrait que je me pose un peu la question un jour, plus rigoureusement. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que on n'est jamais bon que quand on s'amuse? Parce qu'en tout cas, moi, c'est le cas. Quand je m'amuse pas, c'est là où je suis nul à chier. Je suis nul. Et quand je me marre, c'est là où je suis au top de ma performance. Donc voilà, donc je m'amusais plus dans cette période-là. Et j'ai dit à tort dans un épisode, mais je crois que j'ai corrigé dans l'épisode précédent, que dans ces phases qui étaient un peu dures, il faut toujours attendre parce que ça passe. Et alors, je suis d'accord dans le fait que ça passe, mais je suis pas d'accord qu'il faut attendre. En effet, ça passe, mais ça passe pas si tu fais rien. Quand t'as ce moment-là qui dure, donc il y a une petite phase d'ennui, une petite phase de mou qui dure, et que ça dure plus qu'une semaine, souvent c'est ça, c'est qu'il faut changer un truc. C'est qu'il y a un truc qui va un peu moins. Donc moi, c'était mon pourquoi. Je l'ai pas compris directement, mais je pense que j'ai juste eu de la chatte que ça se redébloque. Et selon moi, c'est là où les gens font une erreur, c'est que souvent c'est des trucs qui sont mentaux. Donc mentalement, t'as une vision de ton challenge qui est un petit peu moins, qui t'enjaille un peu moins, et tu te dis, en fait, il faut que mentalement j'aille trouver la solution à mon problème. Et j'avais vu, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je trouve cette formule très vraie, c'est qu'on sort pas de sa tête en étant encore plus dans sa tête. Donc c'est pas en réfléchissant plus fort que tu vas sortir de ta tête et du truc qui t'empêche d'avancer. Et je trouve que ça, pour moi, c'est ça qui démontre le lien entre l'esprit et le corps. C'est que parfois, mettre le corps en mouvement, ça débloque la tête. Et c'est là où en fait le sport, je comprends de plus en plus pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le sport et la clarté d'esprit, mais parce qu'on le balance à toutes les sauces, mais je trouve que personne ne le démontre jamais, ce truc-là. On constate une grande corrélation entre les gens qui prennent soin de leur corps et les gens qui réussissent bien les trucs qu'ils font, de manière générale, même s'il y a des tonnes et des tonnes de contre-exemples, parce que je pense qu'il y a différentes façons d'y arriver à la clarté d'esprit. Mais en tout cas, celle-là, elle marche bien. Ça, c'est très simple. Hein, il suffit parfois d'une séance bien intense de sport pour juste nettoyer le tuyau. Et je vois vraiment cette métaphore comme ça. C'est-à-dire que vous avez votre système qui est un peu... qui est du coup pas graissé, mais bref, qui est un peu encrassé, voilà. Et vous allez faire passer un bon coup de desktop dedans, et ça prend toutes les merdes, et vous arrivez, c'est bien clean, voilà. Donc encore une fois, une meilleure façon d'augmenter le flux dans un système, c'est pas juste de rajouter de l'input, donc de mettre plus d'eau dans les conduits, mais parfois de faire en sorte que l'eau s'écoule mieux dans le conduit. Et donc je trouve que le sport sert à ça, en tout cas. Donc créer du mouvement, créer de la nouveauté, c'est ça qui vous sort souvent d'un passage de mental, on dit la mental fog, donc la brume mentale. Si vous avez vécu ça, vous savez très bien de quoi je parle. Au moment où vous n'arrivez plus à rien aligner. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un truc qui se produit énormément quand vous êtes après une phase de TikTok ou de Reels, quelque chose de gratification immédiate non méritée. Voilà, donc créer du mouvement ou créer de la nouveauté, ça marche pour les deux. C'est comme ça qu'on dépasse l'ennui. Point numéro 5. La décadence en douceur et la notion d'entropie. Donc vous voyez ce que ça veut dire, l'entropie, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est la tendance qu'ont les organismes, enfin quasiment tous les organismes, à aller vers le chaos. C'est classique, vous laissez un jardin sans entretien, et bien voilà, ça devient une jungle. Même chose, vous ne vous entretenez pas, vous ne vous brossez pas les dents, vos dents, elles meurent. Bref, vous avez des chicots pourris. Même chose pour les muscles, si vous n'entretenez pas vos muscles, bref, vous avez compris. C'est à peu près la même chose avec les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la différence entre la façon, entre quelle est l'énergie dans laquelle une personne met en place un objectif et dans quel type d'énergie est-ce qu'elle l'abandonne. Et c'est l'inverse. Souvent, tu choisis un objectif sur un élan de motivation. Tu es hyper déterminé, tu veux faire quelque chose, tu dis « je vais courir mon marathon ». Et on pense que l'abandon va venir à un moment d'une décision qui sera exactement pareille. C'est tellement dur qu'à un moment, je décide, j'arrête. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, un abandon, c'est très latent. Vous allez faire 4 séances, puis 3, puis 2, puis après, pendant les deux, vous allez baisser l'intensité, etc. Et en fait, vous vous dites, bon, finalement, à quoi ça sert de faire un marathon et tout. Donc, l'abandon, il est très latent. Et c'est comme ça qu'elle se produit l'entropie sur les objectifs. C'est que, en fait, c'est comme si vous faisiez creuser. Vous faites gratter 1 centimètre chaque jour. Ça gratte, hop. Et comme il n'y a pas de stagnation, ça veut dire que le seul moyen de contrer ça, c'est de mettre l'énergie inverse. Donc, pour juger si vous êtes en train de vous faire creuser ou si c'est vous qui creusez, faut toujours regarder le coefficient directeur. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est le coefficient directeur. Sinon, vous allez chercher sur Internet, vous demandez à ChatGPT. C'est en gros, si on prend les 7 derniers jours que vous venez de passer et qu'on prend les points et qu'on trace une droite, est-ce que la droite, elle va vers le haut ou elle va vers le bas? Ça donne quoi? Eh bien là, comme ça, vous ne pouvez pas vous mentir. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de devenir une merde. Ça veut juste dire que vous êtes dans la zone orange. La zone dans laquelle, attention, attention potentiellement une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça, quelque chose qui vous tire d'un sens ou de l'autre, peut vous faire partir. Donc je me suis fait un petit truc qui marche bien, c'est une fiche audit. Qui est très simple, c'est 3 points. Alors je me rappelle que 2 là, mais je l'ai dans mon journal. Donc j'écris un petit journal d'ailleurs le matin. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais comme je le fais pas de façon très assidue, je ne vais pas dire que je suis un mec qui écrit un journal. Mais en tout cas, je m'en souviens. Et ce truc me permet de voir dans mon angle mort et d'essayer d'identifier quand est-ce que je suis dans une zone orange. Donc je me pose la question, est-ce que j'ai fait plus que 3 nuits sans sommeil? Ensuite, est-ce que j'ai annulé plus d'une séance de sport ces 7 derniers jours? Et parce que souvent, pourquoi est-ce que les gens se font creuser? C'est parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils se disent, c'est pas grave. Et après, je trouve que le dernier, c'est un truc sur la bouffe. Et donc, ces trucs-là, en fait, à la base, je n'utilisais pas forcément pour savoir quelle était la. Enfin, quand est-ce que j'étais en train de perdre le cap de mes objectifs, mais c'est surtout pour savoir, en fait, quand est-ce que je prends des bonnes décisions. Parce que quand je sais que je n'ai pas coché ces trucs-là, ou alors j'ai coché justement ces trucs-là, donc je n'ai pas bien dormi, j'ai annulé des séances de sport, je sais qu'en moyenne, la qualité de mes décisions, elle est plus faible. Donc, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur la prise des décisions, j'essaie de les delay toujours, de les prendre plus tard. Et donc voilà, essayez d'avoir une petite checklist très 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 simple, toujours c'est simplicité, vous ne faites pas du complexe, qui en fait indique quand est-ce que vous êtes dans une zone de potentielle glissade. Ça veut dire que vous n'avez pas encore glissé, mais potentiellement, il faut faire attention, il faut rehausser la droite. Il n'est pas trop tard. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, ce que je vous disais au début, c'est qu'il faut mettre l'énergie inverse. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a créé un petit channel d'ailleurs sur Discord, ça s'appelle le channel Focus, où chaque semaine, tous les membres mettent leurs objectifs professionnels, donc 3 trucs qu'ils veulent accomplir cette semaine, entre 3 et 5. Et ça, c'est une façon, en 10 secondes d'énergie, donc un copier-coller, probablement, parce que vous avez déjà une to-do, de mettre de l'intentionnalité et de mettre l'énergie inverse. Ok, je vais faire ça. Et chaque semaine, vous voyez les objectifs de la semaine précédente, si vous les avez fait ou pas. Et voilà. Et donc, je vous invite à le faire. C'est, en fait, on rompt. Parce que quand est-ce que. La question, c'est comment est-ce qu'on change le coefficient directeur d'une boîte, enfin, d'une droite, pardon. Eh bien, c'est en mettant de la force de volonté pour l'envoyer dans l'autre sens. Et ce qui marche bien souvent, c'est d'écrire des engagements, donc de regagner peu à peu la confiance en soi qu'on est en train de perdre. Et donc d'écrire, moi je fais ça quand je l'ai fait du coup c'est il y a 2 semaines, quand j'étais un peu dans cette période de merde. J'ai testé le truc, ça marche super bien. C'est le matin, t'écris, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et t'écris des trucs très simples, tu mets pas grand chose. Et comme ça, à la fin de la journée, tac, t'as checké tes trucs, ok, confiance 1, confiance 2. Et le second jour, tu mets des trucs un tout petit peu plus ambitieux, etc. Et en une semaine, t'as inversé la droite. Et voilà, et ça repart, et tu t'es relancé. Juste parce que t'as, en fait, conscientisé le fait de dire, ok, bah tiens, ça fait 7 jours que j'ai dit des trucs, que j'ai fait les trucs que j'ai dit que j'allais faire. Et si t'as l'honnêteté d'esprit de mettre des trucs qui correspondent au niveau de bande passante mentale que tu as disponible au moment, et bah, en fait, tu reconstruis la confiance en toi. C'est très simple. Et la confiance en vous, vous savez, je vous le dis toujours, c'est la réputation que vous avez envers vous-même. Donc, il faut vous montrer que vous êtes capable de faire les trucs que vous avez dit que vous allez faire. Donc, ça commence par des petites choses. Voilà. Hop, petite gorgée. Officiel. Il me reste une demi-gorgée d'eau. Ça va être dur de tenir. Donc, voilà. Et dites-vous aussi quand même, il ne faut pas dramatiser le fait de tomber, c'est-à-dire de sortir un petit peu des rails. Je vous avais déjà parlé, je crois, dans l'épisode précédent, il y a un trimestre. Et la notion de get back on track, il ne faut pas être celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève le plus vite. Et ça arrive plusieurs fois dans un trimestre, ça arrive à tout le monde. Je ne connais pas une seule personne, d'ailleurs, qui est assidue parfaitement. Toujours, vous allez rater un truc, etc. Et ça fait partie du jeu. Dites-vous que ça fait partie du jeu et qu'à chaque fois que vous identifiez ça, vous voyez la droite qui va vers le bas, c'est le moment où il faut remettre... Mais vous mettez un petit coup de marteau sous la droite pour la redresser et vous acceptez de repartir d'un petit peu plus bas. Vous ne commencez pas à essayer de vous dire « Ceci n'aurait jamais dû arriver, je suis une grosse merde. » Voilà. Donc, c'était le principe numéro 5. 5, déjà. Ah ouais, donc j'en ai 6, 7. Ouais, j'en ai bien 9. Principe numéro 6, le dernier debout. Celui qui gagne, c'est le dernier debout. J'oublie la première partie. Alors ça, c'est une formule que je vous avais déjà partagée de mon père qui disait toujours que celui qui gagne au tennis, c'est le dernier qui renvoie la balle, qui est une façon très intéressante de voir le jeu qui marchait, que j'ai jamais vraiment réussi à intégrer, il faut être honnête, en tant que joueur de tennis. Moi, j'étais le gros bourrin. Voilà, et donc j'ai fait énormément de ce trimestre de séances de running, genre moyenne. J'ai fioté des trucs, j'ai raté des séances, hein. J'ai fait toujours, je me suis jamais laissé tomber et même les séances que j'ai fait avec peu d'intensité, je les ai faites. J'ai toujours fait l'essentiel. Je suis jamais descendu en dessous de 4 séances, même quand j'en voulais en faire 5. Et ce truc-là, pour moi, ça illustre parfaitement cette idée-là. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas envoyé la balle la plus forte, la mieux placée dans le couloir, etc., pour mettre en difficulté l'adversaire, mais j'ai renvoyé la balle. Et elle est toujours en jeu, et le point continue. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, et c'est un petit peu une mentalité qu'il faut adopter, de faire un mètre quand tous les autres n'en font pas, quand tous les autres sont immobiles. Vous savez, il pleut, il fait froid. Et vous, vous y allez quand même. Vous allez courir pas grand-chose, vous faites une petite endurance fondamentale, vous transformez un fractionné en endurance fondamentale, mais vous sortez. Et donc, pour la première fois, d'ailleurs, il m'est arrivé des trucs ce trimestre. Il m'est arrivé, vous voyez ce que c'est? Enfin, c'est l'inverse d'une promesse non tenue. Donc, je me dis, je vais courir aujourd'hui. Avant, je me disais, je vais courir aujourd'hui, pardon. Et je courais pas. Et là, maintenant, je me disais, bon, je vais pas courir aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le fractionné, je vais aller faire une endurance fondamentale. Donc, c'est un truc plus lent. Et en fait, ça partait en fractionné. Je me disais au début, ouais, oh, ça part, allez, c'est bon, je suis en train de courir. Et je le faisais. Et ça, ça m'était jamais arrivé avant. Et en fait, ça, ce sont les briques qui sont posées les unes sur les autres. C'est le compound, le fameux effet des intérêts composés. Et j'ai jamais perdu le momentum, et c'est pour ça que je suis super content. Et c'est la leçon aussi qu'il faut pas bien garder en tête. Ne perdez jamais le momentum. Le momentum, c'est la tendance de la droite. Ne vous laissez pas avoir dans un cercle vicieux. Soit c'est un cercle vertueux, soit c'est un cercle vicieux. C'est jamais entre les deux. Voilà. Donc le plus important, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est surtout de ne pas s'arrêter plutôt que de chercher une optimisation supplémentaire. C'est le dernier debout qui gagne, toujours. Donc restez debout, juste tombez pas, enfin relevez-vous. Principe numéro 7, apprendre à jouer, maîtriser le divertissement. Alors malgré tout, à l'issue de ce trimestre, je sais que c'était dur, mais j'ai pas le sentiment d'avoir souffert, et ça fait bizarre. Alors bon, sauf sur les sorties longues par 0 degré sous la pluie au bois de Vincennes. Ça, je veux plus revivre. 2h30, une pluie glaciale, c'est mort. Et surtout après, derrière, le retour en scout d'une demi-heure, jamais. Donc, mais malgré tout, après, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu un trimestre de souffrance. Alors que, au global, c'était quand même, j'ai le sentiment que c'est quand même assez difficile ce que j'ai fait. Et ça, je me rends compte que c'est parce que je me suis beaucoup récompensé. Et donc, mes récompenses, moi, elles sont très simples. Je me récompense avec des bouffes, enfin, avec des sorties avec les potes, avec de la bonne bouffe, avec des jours de repos. Et plein de, enfin bref, vous avez chacun certainement vos façons de faire un truc qui vous nécessite vraiment zéro force de volonté et que vous faites quand vous pourriez faire un lendemain de soirée avec, avec une nuit blanche, quoi, après une nuit blanche. Donc un truc vraiment agréable. Et donc je me suis beaucoup récompensé, ce qui fait que finalement le sentiment de dureté, je l'ai pas gardé. Je me suis toujours, j'ai toujours entraîné ce système-là de, tu fais un truc dur, tu te récompenses. Bien joué d'avoir fait un truc dur. Et j'ai vraiment été pendant tout ce trimestre mon meilleur ami, donc j'ai pas l'impression d'avoir souffert vraiment, de ça. Et d'ailleurs, je vous fais le petit rappel, je vous en avais parlé dans une pendule précédente, mais c'est important de le rappeler dans cette petite masterclass, de quand est-ce comment savoir s'il faut être indulgent avec vous-même ou dur avec vous-même. Et pour moi, ça dépend du coefficient directeur dont on parlait avant. Si le coefficient directeur il est positif, donc vous êtes en train de monter, là vous avez le droit d'être dur avec vous-même, donc de faire « Ah, fils de pute, t'es pas allé courir et tout, etc. » parce que vous êtes solide. Si le coefficient il est descendant, là il faut être votre meilleur pote. Il faut vous dire « Bon, c'est pas grave, tu repars de plus bas, mais tu te relances. » Tac. Et en fait, c'est comme ça que tu fais coller ce dilemme. Selon moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore invalidé et je vous en parlerai si jamais c'est le cas plus tard. Donc, maîtriser l'art de la récompense, très important sur les quêtes long terme. Ça ne marche pas sans. Enfin, ouais, je n'ai pas essayé sans et je n'essaierai probablement pas sans, mais en tout cas, c'est une des composantes qui a rendu la quête moins pénible. Point numéro 8, clarté et organisation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu as un schwerpunkt, qu'il soit d'ailleurs bien écrit ou pas dans vos OKR, tu peux pas y aller au hasard. J'avais un prof qui disait, non, c'était pas un prof d'ailleurs. J'allais dire c'était en prépa, mais non, mais c'est parce que ça parlait de la prépa. Il disait qu'il y a très peu de chances que vous ayez au hasard HEC. Quelles sont vos chances d'avoir HEC au hasard, sans vouloir vraiment avoir HEC, voir l'ENA et tout. Donc ça montre que la destination est aussi importante que le chemin, et surtout qu'il faut quand même avoir une petite idée de la fin en tête. Et quand quelque chose est important, en fait, tu t'organises pour l'accomplir. Il y a très peu de chances que tu l'atteignes sans vouloir, sans avoir la destination précise. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Vous dire que si mon objectif c'était le running, c'était le sport et tout, et donc il fallait que je m'organise. Donc moi ma méthode c'était quoi ? C'est tous les dimanches, je prévoyais l'heure exacte à laquelle j'allais faire mes séances. Et donc je savais dès le début de la semaine si ça allait être difficile de faire mes 4 ou 5 séances et si j'allais pouvoir faire mes séances de sport et tout. Et ça ne veut pas dire que j'étais hyper assidu pendant la semaine. Parfois il y en avait une qui sautait ou que je déplaçais. Mais en tout cas, je savais dès le début que l'objectif le plus important qu'elle ait déterminé la satisfaction de la semaine était prévu. Et donc, quand quelque chose est important, il faut mettre de l'intentionnalité. Parce qu'en fait, je vois très bien, et d'ailleurs, je le vois parce que quand je le faisais, j'avais un peu cette parole-là dans ma tête d'une personne qui disait « Ah, mais tu prévois toute ta vie, c'est pas drôle, t'es un robot et tout. » Mais en fait, ça n'est pas du tout ça. Quand t'as un objectif de t'améliorer sur quelque chose, ce truc-là ne se produit pas au hasard. quelles sont les chances que tu y arrives sans mettre d'intentionnalité? Zéro. Justement, tu mets de l'organisation sur ce truc-là pour laisser de l'aléatoire dans tout le reste. Et donc, c'est pour ça que je vous avais fait un épisode aussi sur le piège de la surperformance. Un des pièges de la surperformance, c'est quand ça pénètre tous les domaines de votre vie. Donc, vous commencez à voir votre vie amoureuse, vos potes, votre famille et tout, etc., comme avec la même assiduité, la même organisation que votre prépa marathon. Donc, vous essayez d'être bon partout, d'être super organisé, et ça, en fait, ça vous nique le plaisir. Donc, ne tombez pas dans ce piège. L'imprévu, c'est super, c'est incroyable. Moi, j'adore ça, la surprise et tout. Sauf sur votre objectif principal qui ne se produira pas au hasard. Donc, soyez clair, soyez organisé. Et c'est une affaire de la clarté, ça veut dire, en fait, c'est de la précision. Vous voyez, j'avais des carrières qui n'étaient pas très claires. Progresser en articulation. Bon, quand bien même j'aurais essayé de le faire, comment est-ce que j'aurais pu cocher ou pas ce truc-là? J'aurais dû dire faire une conférence. Enfin, ouais, d'ailleurs, c'est très très dur à mesurer. C'est souvent ça qui est très dur avec pas mal d'objectifs un peu quali. C'est qu'ils ne trouvent pas des bonnes façons de le mesurer. C'est très très dur de les atteindre. Donc là-dessus, bon, vous voyez, ça ne me vient même pas en tête directement. Comment est-ce que je l'aurais formulé? Donc très dur. Voilà. Et le dernier point, c'est l'accountability, le peer group. Alors, le peer group, c'est le groupe de pairs, P-A-I-R-S. Donc ça, selon moi, ce sont les deux trucs silencieux qui rendent une tâche beaucoup plus facile. Donc tu prends deux personnes à égalité, tu en as une auquel tu ne proposes pas, enfin voilà, qui n'est pas dans un groupe de personnes qui ont des objectifs similaires aux siens et qui ne loguent pas son progrès, qui ne traquent pas son progrès. Et tu leur fais faire la même chose. Il y en a un pour qui le truc va être hyper pénible, il a beaucoup plus de chances d'abandonner, et l'autre qui va, comme on dit en anglais, effortlessly, arriver à son objectif. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les pros, ils ont des coachs, ils ont des camarades d'entraînement. Parce que tout ça, c'est l'accountability et le peer group. Ce sont des choses qui vous aident à atteindre votre objectif. Et donc, ce qui est cool, c'est que ça ne te laisse pas l'opportunité d'abandonner. Quand tu as ces deux choses-là, en fait, c'est, vous savez, je prends tout le temps la même métaphore, c'est Ulysse qui s'accroche aux mains quand les sirènes veulent essayer de le jeter dans l'eau. Il s'enchaîne, en fait, il se ligote. Quand tu te mets dans un groupe d'accountability, donc c'est, vous voyez à quoi je fais référence, hein, c'est tout le Discord là, et ce que, en fait, le fait de tous les jours de rendre des comptes sur traquer votre progrès. Eh bien, tu ne peux pas te cacher. Tu es là et si tu as raté, tu as raté. Et déjà, toi, tu le vois, et souvent, ça suffit. Et parfois, en plus, quand tu as des potes bien intentionnés qui veulent ton bien, ils te le signalent. Et donc, quand tu traques quotidiennement avec des gens qui scalent aussi, tu es invincible. Tu es invincible, vraiment. Ton seul moyen de ne pas atteindre ton objectif, c'est de disparaître et perdre tes potes. Alors, il y a peut-être des grands malades qui auraient tellement honte de ne pas atteindre leur objectif qu'ils préféraient disparaître. Et je ne vous juge qu'à moitié parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Donc, alors qu'ils prennent des programmes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre des programmes de mentoring ou de coaching et de les abandonner après. Vous ratez 2-3 séances et puis après, vous ghostez. Je dis ça parce que je l'ai fait. C'est un programme que j'avais pris il y a 4 ans. Quand j'étais un peu moins assidu, même il y a 5 ans d'ailleurs maintenant, c'était avant Kodak. Et bien voilà, donc bref, évitez ce truc là le accountability, c'est la responsabilisation, ça marche. Le fait d'être avec des gens qui veulent pareil, ça marche aussi. Et donc ce truc là en fait, c'est très simple. Faut utiliser un jour où vous avez une turbo déter, vraiment vous êtes super super motivé, vous mettez en place ce truc là, un groupe de accountability et un peer group, et vous en parlez à vos potes, idéalement quand vous avez la chance d'en avoir, ou alors vous essayez de rejoindre un groupe dans lequel c'est la norme. Il y en a plein, ouais, sur le running il y en a des tonnes. Il y en a plein partout, maintenant que vous avez Internet. Et après, vous laissez ce groupe vous sauver quand vous avez la détermination qui baisse un petit peu. Il faut utiliser ces moments de motivation. C'est-à-dire tout ça, en fait, hein, qui est hyper clé dans, dans un peu la cascade, là, les dominos les dominos de la motivation. Vous savez, d'abord, vous êtes inspiré, ça pousse le domino de la motivation, qui pousse le domino de la discipline, qui pousse le domino de l'habitude, qui pousse le domino de l'identité. Et l'erreur, c'est quand les gens essaient de construire toute une entreprise, donc une quête sur juste de la motivation, parce que forcément c'est un feu qui finit par s'éteindre. Voilà, donc utilisez la détermination pour mettre en place un système, et le système, ça vous sauvera quand vous allez tomber. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Ça, c'est James Clear. Donc moi, j'ai 3 groupes de comptabilité. J'ai le groupe avec les associés Kodak, voilà, j'ai le groupe avec David, enfin mes anciens collègues, donc David et Nathan. Et j'ai le groupe Discord, dans lequel je traque des choses un peu différentes à chaque fois. Ça me prend exactement 2 minutes top chrono, enfin montre en main, le matin. Et en plus, ça me permet de justifier un petit peu le fait que je prenne mon téléphone, qui est un problème que j'ai pas encore sur la planche, et puis qu'il va falloir que je traite un moment aussi. Voilà, et pour faire au moins un truc productif le matin. Et donc voilà, ça me permet de rester quelques minutes au lit, le temps de me réveiller et de loguer ces trucs-là. Voilà, donc je vous récapitule tous ces points, pour vous les ayez bien en tête. Donc focus et je fais punct. elle n'est pas dans tous les sens. Faites une réorientation au milieu de votre période donnée, donc souvent le trimestre. N'hésitez pas à changer votre why, du passé de la souffrance, enfin de l'évitement de la souffrance à l'aspirationnel. 4. Dépassez l'ennui en créant du mouvement physique, en vous mettant vous-même en mouvement. Faites attention à la décadence en douceur, l'entropie est très latente. Soyez le dernier debout. Apprenez à jouer, maîtrisez le divertissement. Faites preuve de clarté et d'organisation dans vos objectifs. Vraiment, il n'y a pas d'objectif trop précis. Et mettez en place de l'accountabilité, enfin, de la responsabilisation et rejoignez un groupe dans lequel les comportements que vous voulez adopter sont la norme. Voilà. Je prends la fin. Putain, il reste rien. Je ne sais pas si je vais tenir. Alors, je vous fais un petit point sur Discord et ensuite on passe aux objectifs Q2. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'avais structuré ce Discord justement pour reprendre ces 9 points et les foutre à un endroit précis. Donc, en gros, je vous en parle aussi parce que là, du coup, on rouvre les inscriptions pendant 7 jours. Ça ouvre à chaque fois au début des trimestres. Et donc, si vous avez envie de rejoindre, le lien est en description et je vais essayer de vous expliquer au moins ce que vous y trouverez si jamais vous cliquez sur ce lien. Donc, ce Discord, tout tourne autour des OKR. Il s'appelle Road to Scale. Et en gros, j'ai construit ce petit outil-là dont je me sers depuis quelques temps, ce fameux groupe de accountability. Le fait d'être entouré, voilà, accountability et peer group, en fait, le principe numéro 9, et c'est le Discord qui le fait pour moi aujourd'hui. Donc en gros, c'est un Discord exclusif. Les gens, ils candidatent. Exclusif, ça veut dire qu'il est par opposition inclusif. Ça veut dire que tout le monde n'est pas la bienvenue, entre guillemets. Enfin, tout le monde peut te candidater, mais je ne prends pas tout le monde. C'est juste pour les gens qui ont des bises qui tournent déjà. Donc j'avais lancé la bêta en janvier. J'ai reçu à peu près 170 candidatures et j'ai pris je crois 40, un peu moins de 40 membres. Et aujourd'hui, donc avec les premiers retours qu'on a eu dessus, ça a permis de trouver un format qui est sympathique, dont je voulais vous parler, si jamais ça peut vous être utile. Et donc en gros, comment ça marche? Donc tous les débuts de trimestre, donc typiquement cette semaine, chaque membre y déclare 5 KR. Donc, ils ont un OKR souvent et 5 priorités, c'est le max. Et il les transforme en habitude à traquer quotidiennement. Par exemple, il y a une personne dans le Discord voilà, qui est une conseillère en gestion de patrimoine qui avait un KR qui était, par exemple, donc collecter 1,5 million d'euros tout court, voilà, sous gestion. C'était un vrai KR, du coup, qui a d'ailleurs été coché à l'issue du trimestre. Donc, ce truc-là, du coup, tu peux en traquer l'avancement quotidien. Et donc, en gros, ce que j'ai créé, c'est un système gamifié. Donc, on l'a fait avec Netcord, l'agence du groupe Discord, enfin, du groupe Kodak, pardon. Genre Discord du groupe Kodak, c'est ça que je voulais dire. Bisous à Jules qui écoute ce podcast et qui est présent tous les jours. Et donc il y a un système gamifié qui fait gagner des points tout au long du trimestre. Et donc le top 8 des gens à l'issue du trimestre, ils sont invités à un dîner qu'on partage, que vous partagez avec moi, donc ensemble. Typiquement là, le dîner aura lieu le 5 avril, j'ai déjà réservé. Et donc il y a un certain nombre de choses qui rapportent des points, entre autres, donc par exemple le login quotidien. Donc à chaque fois que vous loguez, il y a un petit robot qui vient scraper, ça c'est la nouveauté du second trimestre. Et regardez si vous avez été assidu sur vos objectifs. Et dès que vous cochez un KR, vous atteignez un truc, donc par exemple là, le 1,5 million d'euros, ça rapporte plus de points. Donc à la fin du trimestre, voilà, ça fait un petit classement entre les gens et on voit qui a été le plus assidu ou pas. Ensuite, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont là pour te garder déter. Donc déjà, à partir du Q2, on va répartir donc, tous les membres du Discord en squads, des petites squads de 6 personnes. Qui va vous permettre voilà, de vous motiver entre vous. Vous savez, c'est très important le peer group, je ne réinsiste pas dessus, je vous ai déjà expliqué. Il y a un live toutes les deux semaines avec moi, sur lequel on fait un peu un bilan sur les objectifs au début, à la fin et au milieu, enfin, voilà, pour la réorientation. Et sinon, après, c'est sur des thématiques que vous me soumettez. Ça peut parler de. On a parlé de personal branding, par exemple. On a parlé de stratégie d'entreprise. Et je vous file des trucs un peu exclusifs sur ces sujets-là. Il y a un channel idées, dans lequel je partage les contenus que j'aime bien, qui sont toujours voilà, sur les idées de scaling personnel. Ça peut être des contenus de philo, de stratégie militaire et tout, etc. Donc, dès que je lis un truc sympa, je vous le partage. Il y a un channel discussion et un channel entraide, c'est quand vous voulez demander de l'aide à n'importe quel autre membre de Discord, et le channel focus dont je vous parlais avant, qui est actif chaque début de semaine pour signaler les objectifs hebdomadaires. Donc c'est un système que je veux le plus simple possible pour qu'il fonctionne, mais là il marche, ce truc là il marche, on a plein de gens contents de ce truc, donc je suis très content de ce truc là, il y a plein de gens qui ont atteint leurs OKR. En fait on a fait le débrief là aujourd'hui, vu que le live c'est tous les dimanches à 17h, on a fait le débrief avant, là. Et c'était trop cool de voir tout le monde content. Donc je suis super content que ça fonctionne. C'est toujours intéressant aussi de mon côté d'essayer de construire un produit qui répond à une utilisation précise. Donc je suis content que l'accountability et le peer group ça soit rempli. Je pense qu'on va continuer à rajouter des choses. Voilà, donc ça, ce truc-là, il s'adresse aux gens sérieux. Donc, ce sont des gens qui ont... Malheureusement, ce n'est pas pour une grosse partie de mon audience qui n'a pas de business. Donc, je pense à tous les étudiants ou gens qui viennent de se lancer. Il faut déjà avoir un truc qui tourne et qui rapporte de l'argent. Parce que, enfin, voilà, on est tous dedans et le but, c'est de garder la communauté la plus sympathique possible et la plus avancée. Je ne veux pas, vraiment pas faire un truc grand public, même si je vous aime tous. Donc, moi-même, je log tous mes trucs dedans. Tous les jours, je suis dedans. Je mets mes objectifs, j'ai mes OKR dedans, etc. Donc, je suis assez actif. Donc là-dessus, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 avril, si jamais c'est votre délire. L'abonnement, il coûte 80 euros par mois. En plus, je vous fais une facture, donc vous pouvez passer en frais de société. Si vous voulez rejoindre, le lien est en description du podcast, donc il faudra faire une petite présentation, et ensuite, il y aura une sélection qui aura lieu sur le trimestre, et vous serez accepté ou pas dans le Discord. J'espère vous y voir, et sinon, on continuera d'entretenir cette relation parasociale via le podcast uniquement. Voilà les petits potes. Putain, là, j'aurais bien bu de l'eau, là. On fait le finish, je vous parle de mes objectifs du Q2. Je suis hyper excité à l'idée de vous annoncer ce que j'ai envie d'accomplir ce trimestre. Alors, je vous ai dit, j'ai structuré mes objectifs en deux parties. D'abord le blitzkrieg, ce que je veux accomplir, et ensuite deux feux que je ne veux pas laisser brûler. Voilà, donc deux choses que je ne veux pas laisser tomber en jachère pendant ce Q2. Donc, blitzkrieg, donc Blitzkrieg 2 points, c'est ça le titre de mon OKR, c'est devenir un meilleur entrepreneur. J'ai gardé la notion, faute de mieux. C'est une référence au manifeste que vous pouvez aller écouter. Dedans, j'ai 5 KR, mais il y en a deux qui sont secrets, parce que c'est des trucs assez clés de la stratégie Kudak. Le premier, je peux vous le dire, avoir organisé mon prochain challenge sportif. J'ai quelques petites idées, mais je préfère pas vous en parler avant, j'ai pas envie de faire celui qui parle plus qu'il n'agit. Donc, je veux faire se passer les choses et dès que j'ai un peu du concret, je vous en parle. J'ai pas envie de laisser tomber ce truc-là. J'ai envie de continuer à faire des trucs durs. Les bénéfices sont trop, trop bien. Deux KR secrets. KR numéro 4, avoir signé 3 deals d'intégration d'agence. Donc là, les périodes d'essai arrivent à leur terme. J'ai envie de rajouter 3 agences dans l'écosystème Kudak, ce qui me laissera la moitié de l'année pour en trouver une autre. Le but, c'est 4 en un an. Voilà. Et numéro 5, avoir organisé 3 jours de dinguerie entre amis dans les vacances estivales. Donc on a déjà prévu la date. Ce sera, je crois, enfin, début. Bref, on a prévu la date et c'est moi qui ai organisé. J'ai demandé à organiser les 3 jours. Donc j'ai envie de faire des trucs assez sympathiques dont ils se souviennent. Donc ça, c'est mon blitzkrieg, c'est extrêmement simple. Et j'attends la réorientation mi-Q2 pour soit rajouter des choses ou en retirer. Mais en fait, les deux qui sont en secret prennent beaucoup de temps. Donc vous inquiétez pas, j'ai du pain sur la planche. Mon feu numéro 1. Celui que j'ai pas envie de laisser brûler, enfin bon bref, ce que j'ai envie de continuer à être focus dessus, c'est devenir athlétique. J'ai envie d'atteindre enfin ce 10% de body fat. Je pense que c'est le bon moment, vu que j'ai pas d'autres challenges sportifs trop intenses, c'est le moment où je vais reprendre bien la salle, bien la bouffe. Et donc j'ai 5 KR à l'intérieur. Faire 54 séances de salle, je retire mon petit voyage à New York, auquel je pars d'ailleurs, je pars à New York pas cette semaine, juste après le marathon. Donc sur les podcasts, il faudra faire un peu attention, parce que bon, d'ailleurs je pourrais pas vous sortir un épisode de podcast lundi, enfin dimanche prochain, parce que ce sera le marathon, donc je sais pas ce que je vais faire l'après, mais je pense que je vais célébrer et dormir. Donc je vous ferai peut-être le lundi, et ça tombe bien parce que j'ai pris ma semaine, parce que je pars à New York le lundi soir, donc j'essaierai de vous faire un épisode de podcast la journée, et après on verra quelle forme j'ai en rentrant des États-Unis. Donc faire 54 séances de salle, 54, je vous dis ça pourquoi, parce que 54, si vous comptez, ça fait à peu près quoi, je crois 4 ou 5 par semaine, 4 par semaine, et j'ai retiré une semaine où j'ai prévu de rien foutre, celle de New York, pour célébrer. KR numéro 2, faire 24 séances d'MMA, donc j'en faisais avant, j'ai envie de reprendre un peu. Donc 24 séances, ça fait 2 par semaine, ça devrait aller pour une petite réactivation. KR numéro 3, faire 27,4 déficit calorique, je crois que ça équivaut à 300 par jour. Je vais y aller mollo, parce que j'ai quand même pas mal perdu avec la prépa running, donc j'ai pas forcément envie de supercut encore plus, j'ai envie de retrouver ma force, parce que ça a beaucoup diminué, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est compliqué de tout faire à la fois. KR numéro 4, faire 80% de mes journées à 2 cafés par jour. Je bois beaucoup de café, j'adore ça. C'est ma bataille de toujours et je pense qu'un le matin, un l'après me satisferont largement et dans le but que ça serve mon deep sleep. Et numéro 5, 48 nuits, coucher à 22h30, c'est exactement le même que celui d'avant, que j'ai envie de garder. Mon feu numéro 2, c'est diriger Kudak vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, celui que j'ai pas envie de laisser cramer. Car numéro 1, sortir 13 épisodes du podcast, je le remets parce que je serais très déçu de ne pas avoir sorti ces 13 épisodes de podcast. C'est d'ailleurs comme ça en fait qu'il faut voir, hein, tous les KR que je vous dis qui ne sont pas dans le Blitzkrieg. Donc j'ai 2 OKR pas Blitzkrieg et 1 OKR Blitzkrieg. C'est toutes ces choses-là où j'aurai le seum à la fin du trimestre que ce soit plus le cas. KR numéro 2, moi je ne vais pas vous en parler, c'est un truc Kudak. KR numéro 3, méditer 36 fois, j'ai envie de reprendre tranquillou. Et je pense que j'ai envie d'utiliser la méditation pour tous ces moments-là où j'ai un peu le brouillard mental, parce que j'ai remarqué que ça m'aidait beaucoup. Et KR numéro 4, avoir une BU formation active, donc une business unit formation active, donc avoir lancé une formation, la fameuse formation MetaAds, qui, je l'espère, devrait sortir parce qu'on a une personne qui s'en occupe. Si ça le fait, elle sortira. Si ça le fait pas, ça sera encore décalé. Voilà. Bon, les potes, utilisez ce moment-là pour faire vos objectifs à vous. Vous faites votre OKR Blitzkrieg et vous faites les feux que vous voulez pas laisser cramer. Et je ne traquerai, moi, que les OKR Blitzkrieg. Les OKR Blitzkrieg, ça sera... je dis ça pour les membres du Discord qui écoutent ça. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et pour tous ceux qui rejoindront le Discord, très, très, très focus. Et on fera la réorientation au milieu. Donc, les amis, un autre trimestre s'achève. Je suis hyper content de l'avoir partagé avec vous. Je prends toujours autant de plaisir dans ce podcast. Et franchement, j'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que je l'aurais couru, j'espère, ce marathon. J'aurais essayé de le courir. J'ai juste trop hâte de pouvoir vous faire le récit de la course. Et ça me fait des petits papillons dans le ventre. Voilà. Donc, merci beaucoup de suivre tout ça avec moi. Je vous embrasse les scalers et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon quand est-ce que vous écoutez ça, en train de faire la vaisselle, courir, marcher. C'est tout. N'oubliez pas d'aller mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Je vous embrasse, c'était Théo. Tchou tchou.